Avec les fêtes, ça fait 2 bons mois que je n'ai pas pondu de pituit et il s'en est passé des trucs en si peu de temps. J'en étais resté au conflit autour de WordPress et j'avais encore des trucs à dire. Mais entre-temps, le Père Noël est passé, il a déposé la gastro au pied de mon sapin, elle a pris son temps pour coloniser mon système digestif. Le 1er janvier à 5h du matin, j'ai compris que pour la bonne santé, c'était foutu. En ce qui concerne la bonne année, j'avais fait une croix dessus en apprenant la réélection de Trump. Manifestement, le Père Fouettard en a eu marre de son rôle d'épouvantail. Il a pris son autonomie le 20 janvier dernier et lancé une start-up nauséabonde qui annonce les heures sombres de notre histoire à venir. Non, l'année ne sera pas bonne, la décennie non plus, et la suivante ne fera probablement pas mieux. Le Père Fouettard n'aurait sans doute pas réussi sans le soutien des grands pontes de la Silicon Valley, qui certes n'ont pas basculé comme un seul homme, mais qui comptent des acteurs majeurs et aucune opposition manifeste. Ils ont soutenu Trump à coups de millions, alors qu'il y a encore quelques années, ils avaient plutôt tendance à soutenir le camp adverse. C'est notamment le cas de Marc Andreessen et Ben Horowitz, les deux fondateurs d'un des plus gros fonds d'investissement du coin. On a quand même moins parlé d'eux que de Bezos, propriétaire du Washington Post, qui a refusé que le journal prenne position, comme il est coutume de le faire aux États-Unis, sachant que le journal aurait opté pour une candidate qui n'aurait pas été Trump. Et dire qu'en 2020, la presse publiait des articles sur la haine et la rivalité qui existaient entre lui et Trump. Et on a également moins parlé de Bezos que de Zuckerberg, qui se distingue comme souvent par son style spectaculairement con et brutal, avec la liquidation des services de fact-checking, le retour des sujets politiques, la suppression des règles de discrimination et d'insultes à l'encontre des LGBT, l'abonnement automatique d'utilisateurs au compte de Trump, le blocage du hashtag « démocrate », tout en vantant les mérites de l'énergie masculine et de l'agressivité dans un célèbre podcast pro-Trump. Mais celui dont on parle le plus, c'est bien entendu d'Elon Musk, qui lui aussi a changé de bord. Il s'est payé un poste de responsable de l'efficacité gouvernementale, qui consistera probablement à détruire les administrations fédérales qui pourraient empêcher Trump de faire tout ce qui lui passe par la tête. C'est quand même ironique qu'une administration qui a dépensé 1000 milliards de dollars dans la guerre contre la drogue depuis 1971 en arrive à se faire liquider en 2025 par un toxico. Je ne parierai toutefois pas trop sur l'avenir de Musk. Déjà, il a éclipsé Trump lors de sa cérémonie d'ouverture en faisant des saluts pas nazis du tout, mais tellement ressemblants que les nazis ont cliqué sur le bouton j'aime avec enthousiasme. Il a ensuite taclé le super projet d'IA de Trump, nommé Stargate, juste après que ce dernier l'ait lancé en fanfare. C'est risqué de retirer sa dose de narcissium à un vieux singe sénile, il pourrait mordre. Et tant qu'on parle sénilité, lors de son pot de départ, Biden a dénoncé l'émergence d'une oligarchie techno-industrielle qui mettait en danger la démocratie américaine. Il a tout repompé sur Eisenhower qui dénonçait en 1961 le poids malsain du complexe militaro-industriel. Ou alors c'est une référence, ça voudrait dire qu'il n'est pas complètement gâteux. Faut dire que cette oligarchie techno-industrielle a été fâchée ces 4 dernières années par la politique plutôt ferme de la FTC, ainsi que par l'Europe et son RGPD. Zuck, tout en faisant la danse du ventre pour apaiser Trump, n'a quand même pas oublié de se plaindre de ce que les institutions européennes lui faisaient subir. Avec des milliards, on achète tout, y compris des consciences. Alors quand on en a des centaines dans les poches, ce n'est pas pour se faire dicter sa conduite par des gueux. Ils ont acheté le pouvoir et ont une voie dégagée pour faire leur truc sans plus aucune entrave. Leurs homologues allemands ont eu la même assurance dans les années 30, on verra s'ils feront mieux qu'eux. C'est maintenant du tréfonds de mon slip que je sors un lien avec Mullenweg. Pour mémoire, c'est le patron de l'éditeur de WordPress dont je parlais dans ma dernière chronique. Il accuse son concurrent de parasitisme. Même si ce qu'il fait est très contestable du point de vue de l'éthique libriste, je ne parviens pas à le condamner complètement, parce que le basculement que nous venons de vivre prouve que le pouvoir économique peut tout acheter. J'en viens à penser que l'aspect économique est un angle mort du libre. Les GAFAM et d'autres acteurs analogues se sont développés grâce au libre, et sont maintenant parvenus à appliquer une logique privatrice au code, aux données, aux esprits, et maintenant au système politique tout entier. Le projet social de l'informatique libre, à défaut d'avoir échoué, n'a manifestement pas réussi, et je crois que l'absence de pouvoir économique pèse lourd dans cette défaite. Dans ce nouveau monde où l'humanisme n'est plus qu'une blague, la force est la seule valeur qui compte, et donc je me pose la question, l'informatique libre, combien de divisions ?